Salut, salut à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre récap de l'actu de la semaine. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous, on commence 2023 avec une petite nouveauté en fin d'épisode. Mais avant ça, on révise notre code pénal avec Mathilde. Lorina vous a préparé une rétrospective de la vie du pape Benoît XVI. On fait un point sur le bouclier tarifaire avec Louis et un peu de culture avec Charline qui va nous parler des livres en braille qui baissent leur prix pour s'accorder sur le tarif des livres classiques. Mais tout de suite, soyez attentifs, on survole l'actualité que vous avez peut-être loupée. C'est le affluoté avec l'incroyable Chloé. La France va livrer à l'Ukraine des chars de combat légers. En guise de soutien indéfectible, Emmanuel Macron a annoncé à Volodymyr Zelensky la livraison d'AMX-10RC. Le président n'a pas précisé le nombre ni la date des livraisons de véhicules de combat. Selon l'Élysée, c'est la première fois que des chars de conception occidentale sont fournis à l'armée ukrainienne. 45 000 traversées de la Manche sur des embarcations de fortune ont été enregistrées en 2022. Un nouveau record qui risque de dessiner des grimaces sur les visages des membres du gouvernement anglais qui ne cessent de multiplier les politiques anti-migratoires. Que calor ! Un autre bien triste record maintenant. L'année 2022 est officiellement l'année la plus chaude jamais enregistrée. Elle se situe très loin devant 2020 qui détenait jusqu'ici les températures maximales. La sécheresse des sols aura été une des plus longues et des plus étendues en France, avec les trois quarts du territoire concerné. Et ça chauffe aussi du côté des militants pour le climat. Trois membres du groupe Dernière Rénovation ont été arrêtés vendredi matin après avoir aspergé de peinture orange la façade du ministère de la Transition écologique. Mercredi et jeudi, c'est les façades de Matignon et du ministère de l'Économie qui avaient été recouvertes de peinture orange. Plus qu'un mois et demi à attendre avant la grande messe du 7e art. Les membres de l'organisation des Césars ont annoncé jeudi soir que la cérémonie sera présidée par Tahar Rahim. La présentation de la cérémonie, quant à elle, sera collégiale et répartie parmi une dizaine d'artistes. Lundi dernier, l'Académie annonçait sa décision de mettre en retrait les personnes mises en cause pour des faits de violence suite à l'affaire Sofiane Benacer, mise en examen pour viol, alors que son film Les Amandiers était en salle. Alors Julie, qu'est-ce qui est gras, qui pue et qui bouche les égouts ?
Je sais pas.
C'est le fatberg. Ce fatberg, c'est une contraction de fat, gros en anglais, et iceberg, et il désigne un phénomène assez peu appétissant des fêtes de fin d'année en Angleterre. Un véritable iceberg de gras causé par l'amas de l'huile de cuisson et la graisse de la dinde de Noël, jetée dans les éviers par les Britanniques, se forme dans les égouts, et cela malgré les recommandations du gouvernement. L'année dernière, un fatberg de 300 tonnes avait été trouvé dans les entrailles de Birmingham. Ça donne faim, non ? Pas du tout.
Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy.
Nous sommes en guerre.
Mon ennemi, c'est la finance.
Écoutez, petit bonhomme.
Ce jeudi 5 janvier, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a dévoilé un plan d'action issu des états généraux de la justice. Le ministre s'est notamment engagé jeudi à augmenter son budget pour le porter à 11 milliards d'euros en 2027.
Pas moins de 50 000 consultations ont servi à établir cette feuille de route. Jeudi dernier, le garde des Sceaux a présenté un plan d'action afin de lutter contre une justice jugée trop lente et trop complexe. Au programme, un catalogue de mesures très large qui annonce un plan de recrutement de 10 000 fonctionnaires de justice et la réécriture du code de procédure pénale dans un élan de modernisation.
Des conclusions ont aussi été rendues pour réduire la surpopulation carcérale, Mathilde.
Oui, des efforts en matière pénitentiaire étaient également attendus au tournant. Rappelons que Emmanuel Macron avait annoncé la construction de 15 000 places de prison. Eh bien, son ministre de la Justice a précisé que l'objectif serait atteint d'ici 2027. En attendant, Éric Dupond-Moretti a promis l'instauration de caméras piétons pour les surveillants en prison. Autre petit cadeau du ministre, la promesse d'une transformation numérique qui permettra aux justiciables d'obtenir des infos pratiques, de localiser des points de justice et trouver un avocat ou un notaire. Il a également annoncé la mise en place d'amendes forfaitaires en version électronique pour certaines contraventions. Alors, merci qui ?
Merci Éric Dupond-Moretti ! Ils sont descendus dans la rue de Paris ce jeudi 5 janvier pour demander une revalorisation à 50 euros de la consultation. Les médecins généralistes sont en colère, Mathilde.
Augmenter le prix de la consultation médicale de 25 à 50 euros, c'est la revendication phare du mouvement Médecins pour Demain qui compte plus de 16 000 participants. Le mouvement de grève lancé début décembre s'est donc poursuivi cette semaine. Parmi les arguments des médecins grévistes, le coût de la consultation dans l'Hexagone, qui serait parmi les moins élevés de nos voisins européens. Pour apaiser les tensions, le ministre de la Santé, François Braun, a précisé qu'elle connaîtrait bien une revalorisation, même s'il a fermé la porte, aux 50 euros.
Après la colère des blouses blanches et celle des blouses bleues qui s'annoncent, La Poste pourrait supprimer les tournées quotidiennes des facteurs dans toute la France.
Un test sera lancé dans 68 communes françaises à partir du mois de mars. Les facteurs auront donc une tournée définie un jour, puis une autre tournée le lendemain. Seuls les courriers urgents, comme les colis, la presse ou les recommandés, seront distribués quotidiennement. En 2022, 7 milliards de lettres seulement ont été livrées contre 18 milliards en 2008. Le but de cet essai est donc de s'adapter à la demande. Mais les syndicats ne voient pas la chose d'un même œil. Pour eux, cette expérimentation rime surtout avec suppression de postes.
Everybody knows the rules.
You are entitled to a beautiful new blue passport.
We did it, Joe.
God bless you all.
Jamais un pape n'avait quitté ses fonctions avant sa mort. Benoît XVI a mis fin à cette tradition le 11 février 2013 en se retirant. Son état de santé ne lui permettait plus de régner. Le 31 décembre 2022, le pape émérite est décédé. Lorina, on fait un bond dans le temps avec toi, direction 1927.
Oui, il s'agit de l'année de naissance de Benoît XVI, Joseph Ratzinger, de son vrai nom. Il est engagé de force dans les jeunesses hitlériennes à l'âge de 14 ans et sera très marqué par la Shoah. Après la guerre, le jeune homme se concentre très vite sur la religion et entre à la prestigieuse faculté de théologie de Munich. Il est ordonné en juin 1951 et à 31 ans, il devient l'un des plus jeunes théologiens allemands. Sous l'égide du pape Jean XVIII, il devient consulteur théologique lors du Concile Vatican II dès 1962. Son travail permettra entre autres d'améliorer les relations de l'Église catholique avec les Juifs.
Devenir pape, c'est souvent un processus long pour les hommes d'Église. En 77, Joseph Ratzinger est ordonné évêque de Munich, puis est nommé cardinal.
Et en 1981, il prend la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est à ce moment-là qu'il se rapproche du pape en fonction Jean-Paul II. Les deux hommes seront très liés par leur idéologie particulièrement conservatrice. Une amitié qui le poussera à présider la messe d'obsèques de ce dernier à sa mort en 2005. Il est élu quelques mois plus tard, le 19 avril 2005, et deviendra le 265e pape de l'Église catholique.
Benoît XVI, il a souvent été dépeint comme un pape conservateur, non ?
Oui, tout à fait. Très vite, l'Allemand est reconnu pour sa vision très conservatrice de la religion catholique. Il voit d'un très mauvais œil les potentielles évolutions de l'Église. Tout au long de son pontificat, Benoît XVI sera intransigeant sur le célibat des prêtres, l'ordination des femmes ou encore des hommes mariés.
Par contre, il se démarque de Jean-Paul II en brisant le silence sur les prêtres pédophiles.
Lors de ces dernières années de son pontificat, plusieurs prêtres accusés de sévices sexuels seront défroqués. Une première dans l'histoire de l'Église, ce sera l'un des premiers pas qui permettra de briser le tabou. Les sanctions resteront néanmoins insuffisantes car les évêques et les cardinaux seront encore longtemps impunis. Benoît XVI se retire le 28 février 2013 à 85 ans, se jugeant trop malade pour continuer son travail. Le pape François prend alors sa suite.
Le jeudi 5 janvier, l'Iran a fait fermer l'Institut de recherche français à Téhéran.
Après la dernière publication de Charlie Hebdo, les relations entre la France et l'Iran se sont tendues. L'ayatollah Ali Khamenei a jugé les caricatures du journal satirique insultantes et indécentes. Le ministère iranien des Affaires étrangères a signalé que cette fermeture n'était que la première étape des sanctions. Pour le moment, la porte-parole du Quai d'Orsay, Anne-Claire Legendre, a affirmé ne pas avoir reçu d'informations officielles.
Des tensions pourraient aussi éclater à Jérusalem alors qu'Itamar Ben-Gvir s'est rendu sur l'esplanade des mosquées.
Le nouveau ministre de la Sécurité nationale israélien a bravé les mises en garde au sujet de son déplacement sur le troisième lieu saint de l'islam mardi 3 janvier. Le chef de l'opposition israélienne Yair Lapid avait prévenu qu'un tel déplacement pourrait déclencher des violences. De son côté, le Hamas a qualifié ce déplacement de prélude à une escalade dans la région et plusieurs pays arabes l'ont vivement condamné.
Le blé, fais gaffe. Un coup, t'en as, un coup, t'en as plus.
Elle est là, la réalité de nos hôpitaux.
Moi, je suis une star des maladies infectieuses.
Oh, gardez vos nerfs.
Retour en France pour un peu d'économie après un début d'hiver doux qui a permis d'éviter les coupures de courant. Certaines factures d'électricité s'envolent et le gouvernement annonce une prolongation du bouclier tarifaire.
Eh oui, Julie, c'est une information dévoilée par la première ministre Elisabeth Borne en début de semaine. Le bouclier tarifaire sur le prix de l'énergie sera prolongé jusqu'à la fin de l'année 2023. La ristourne, qui permet de limiter la hausse des prix du gaz et de l'électricité à 15%, devait initialement durer jusqu'en juin.
Une mesure pour tout le monde, donc.
Exactement. Comme en 2022, sauf que la limite d'augmentation des prix est fixée à 15% au lieu de 4. Les ménages les plus modestes recevront aussi des chèques énergie allant de 100 à 200 euros. Et ces mesures ont un coût, 24 milliards d'euros en 2022 et 44 milliards en 2023.
Mais je croyais que le bouclier tarifaire ne concernait que les boulangers.
C'est vrai que l'augmentation de la facture électrique des boulangers a fait les gros titres ces dernières semaines et le gouvernement les a lus, voire entendus. En plus de bénéficier d'un étalement du prix de leurs factures, les boulangers vont pouvoir résilier leur contrat d'électricité sans frais lorsqu'il est trop coûteux.
Les autres professions qui subissent la hausse des prix de l'énergie ont essayé d'obtenir le même avantage de la part du ministère de l'économie, sans succès. Et ce ne sont pas les seuls en difficulté, puisque tu nous dis, Louis, que des géants du commerce en ligne licencient.
Et oui, Julie, Amazon annonçait cette semaine qu'elle allait supprimer un peu plus de 18 000 postes dans le monde, soit le plus important plan de licenciement de son histoire. Un chiffre qui prend en compte des licenciements déjà effectués en fin d'année. Le directeur général de l'entreprise a justifié ces licenciements par une incertitude économique et par le fait qu'Amazon a embauché rapidement au cours des dernières années.
À savoir que l'entreprise de Jeff Bezos emploie plus de 1,5 million de personnes dans le monde. Enfin, bonne nouvelle pour celles et ceux qui seraient intéressés par l'achat d'une maison, le marché de l'immobilier est en baisse.
Et ce, pour la première fois depuis 10 ans. Les taux d'intérêt qui remontent et la baisse du pouvoir d'achat liée à l'inflation ont été peu favorables au marché de l'immobilier, ce qui s'est traduit par une baisse de 4% des transactions en 2022. Century 21 explique que cette érosion du marché peut faire chuter les prix en 2023 de 5 voire à 7%.
And the Oscar goes to...
Ici Bob Sinclair, j'écoute.
Quand on y va, on va agressif.
La chatte, qu'il a, la chatte.
Ça y est, le monde de l'édition a arrêté de fermer les yeux. Le prix des livres en braille baisse depuis ce 4 janvier. Bien plus qu'une diminution, c'est avant tout une mesure d'égalité entre tous les lecteurs, Charline.
Il aura fallu attendre 40 ans, Julie, après la loi Lang, une loi qui fixe un prix unique aux ouvrages, pour l'avoir appliquée aux livres en braille. Jusqu'à là, leur prix oscille entre 60 et 122 euros, pour désormais tourner entre 11 et 30 euros.
Et ça va concerner tous les livres en braille ?
Ah bah, cela aurait été trop beau, mais non. Pour l'instant, le centre de transcription et d'édition en braille peut seulement financer 2000 livres. Et c'est déjà un pari risqué, selon sa directrice, Annick Coursan, qui estime avoir les moyens pour 1 ou 2 ans.
Et quand on connaît le prix de la fabrication...
700 euros pour un livre en braille, c'est bien plus que celui des livres classiques. Pour la simple raison qu'il nécessite un travail de transcription fait par des spécialistes, des machines particulières et un papier plus épais.
Une bonne nouvelle pour les 2 millions de Français souffrant de déficience visuelle. On continue sur une autre histoire. Roméo et Juliette, c'est bien une histoire d'amour, non ?
Alors ça, c'est seulement sur le papier, Julie, car Olivia Hussey et Leona Winting, protagonistes de la version de Zeffirelli en 1968, viennent de porter plainte contre Paramount pour une scène de nu non consentie.
Ils étaient mineurs au moment des faits, il n'y avait pas de référent ?
Et non, cette mesure de référent, chargée de veiller au grain pour prévenir les abus sexuels, existe seulement depuis mars 2022 et en France. Selon Didier Carton, l'un des créateurs, c'est la prise de parole de Adèle Haenel en 2019 qui a servi de déclencheur. On est donc bien loin de la direction de Zeffirelli, selon les acteurs. Et a priori, le réalisateur estimait que sans cette scène, le film allait échouer et a donc filmé en secret les deux ados.
Dans le reste de l'actualité, Charline, tu nous parles d'une joueuse d'échecs iranienne.
Sarah Kadem, 17e joueuse mondiale, s'est présentée sans voile à une compétition au Kazakhstan et depuis, elle s'est installée en Espagne par crainte des représailles dans son pays. Bien que l'Iran produise depuis de longues dates d'excellents joueurs, il s'est empressé de prendre ses distances avec elle dès l'apparition de cette photographie la montrant sans son voile.
Concrètement, quelles sont les menaces proférées par le gouvernement iranien ?
On ne sait pas trop car la joueuse se fait discrète dans les médias. Reuters cite seulement une source anonyme. Il y aurait eu des appels téléphoniques menaçants, l'obligeant à être toujours entourée par des gardes du corps.
J'imagine que son geste s'inscrit dans les manifestations qui secouent le pays depuis le 16 décembre 2022.
Cette marque de défi contre le port du voile est devenue courante chez les sportives iraniennes. Et ça a des conséquences parce qu'il y a plusieurs joueurs qui quittent tour à tour leur pays pour l'Europe, comme Ali Rezafi en 2021, qui s'est rendu en France et a cessé de conquérir pour son pays d'origine. Et pour Sarah Kadem, en plus d'enlever son voile, elle a décidé de participer à la compétition sans l'intermédiaire de la fédération.
Au-delà du monde du sport, enlever son voile dans le contexte actuel iranien, ça veut surtout dire se défaire des pressions exercées à l'encontre des femmes par le pouvoir.
Je te donne juste un petit conseil.
Franchement, il faut que tu vois ça.
Tu le connais, lui ?
C'est vraiment pas mal, ce livre.
Ça, c'est bon à savoir.
C'est quand l'apéro ?
C'est un incontournable.
Il faut que t'écoutes ça.
J'adore le concept.
C'est de la bombe.
C'est où que ça twerk ?
Mais elle est où, la moulaga ?
Je vous l'ai promis en début d'épisode et je suis une femme de parole. À partir d'aujourd'hui commence notre nouvelle chronique. Chaque semaine, un ou une journaliste nous racontera son parcours et son métier. Aujourd'hui, c'est Laura Mottet qui est avec nous en studio, Bruno.
Et on lui souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à la presse écrite et notre invitée travaille dans un média que vous connaissez forcément si vous fichez l'actu. Est-ce que tu peux te présenter, Laura ?
Bonjour, je m'appelle Laura Mottet, je suis journaliste au Monde, actuellement au service web du Monde et je travaille à moitié temps sur l'actualité chaude, le desk, et l'autre moitié du temps sur de l'enquête.
Et comment t'es arrivée là-bas au Monde ?
J'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai pas fait d'école de journalisme. Je suis rentrée au Monde via ce qu'on appelait le Monde Académie, qui était un concours destiné à faire rentrer des profils différents au Monde. Ils ont fait ça pendant 3 années consécutives et moi je suis rentrée lors de la 3e année où ils cherchaient des profils un peu techniques. Alors techniques au sens large, hein, des développeurs, des data journalistes comme moi, des gens qui faisaient de la vidéo, des gens qui faisaient de la radio. Et donc à la fin de ce concours, j'ai eu 1 an de CDD au Monde et et ils m'ont gardée ensuite.
Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais quotidiennement dans ton travail ?
Soit on est sur de l'actu chaude, donc je disais sur la partie desk, c'est un desk tout à fait classique, donc entre 7h et 14h, 9h, 16h, 14h, 21h, 16h, 23h. On regarde le fil AFP, on a toujours un œil sur les réseaux sociaux aussi. On va faire des reprises, parfois on passe quelques coups de fil. Et à côté de ça, on a du temps pour faire autre chose. Et moi, cette dernière année, donc j'avais à peu près la moitié du temps qui était en enquête politique, puisque c'était 2022 et qu'il fallait creuser un peu ces sujets-là.
Et par rapport à tes expériences passées, c'est quoi un peu les avantages de ton travail actuellement ?
Quand j'étais en analyse de données, je gagnais en entrée de poste deux fois plus que ce que je gagne maintenant après 5 ans, 6 ans au monde. Donc, je dirais pas l'argent déjà en avantage. Non, c'est le sens en fait. Moi, je suis venue au journalisme pour ça. Hein. C'est que j'en avais un peu marre de travailler sur des données juste pour faire acheter, que les gens achètent plus. Donc, je trouve que le journalisme, on peut se rendre tous à peu près utiles selon un peu ses qualités. Hein. Moi, ma principale qualité, je pense que c'est que je vois le mal partout. Et donc, c'est très bien en enquête. Il y a d'autres gens qui sont très très bons pour recueillir un peu les expériences du quotidien. Enfin, chacun a un peu ses compétences.
Et une dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aimerait travailler dans la même rédaction que toi, qui voudrait vraiment faire le même métier que tu fais? Quel conseil t'aurais?
Plein de conseils à donner aux jeunes journalistes. Vraiment, l'important, c'est ce que vous faites et votre portfolio. Et donc, le conseil que j'ai, c'est vraiment y aller, quoi. Si vous avez envie d'être un reporter société, on monte un blog et puis on va faire des reportages de société de son côté. Si on a envie de faire de la radio, monter son podcast, montrer un peu qui vous êtes, quelles sont vos qualités et qu'est-ce que vous savez faire. Enfin, globalement, je trouve que c'est un métier où on apprend en le faisant aussi.
Merci Bruno, merci Laura. La semaine prochaine, vous découvrirez un nouveau journaliste qui est correspondant à l'étranger. C'est déjà la fin de cet épisode, on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. C'est la dernière ligne droite, on sait que c'est une période difficile, mais surtout tenez bon, continuez de travailler. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous aider chaque semaine. Merci à Margot et Bruno à la technique et à tous mes super copains d'ActuVu. À la semaine prochaine.